Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 59. Le réseau Auroville. D'un paradis hippie utopiste à un lieu de vacances pour pédocriminels. Auroville, la ville du futur. Va falloir faire un grand ménage. Installée en Inde, cette communauté d'occidentaux hippies disciples d'un maître du yoga est un nid à pédos depuis bien longtemps. Origine du projet. Auroville, c'est l'aboutissement d'une rencontre spirituelle et amoureuse au début du XXe siècle. Lui, c'est un maître du yoga intégral, Aurobindo Ghose, alias Sri Aurobindo, né en 1872 dans une famille bourgeoise de Calcutta, plutôt proche des colonisateurs anglais. Il étudie à Cambridge, l'une des plus prestigieuses universités d'Angleterre, puis à son retour, il se dévoue à un activisme indépendantiste, assumant un yoga activiste et violent envers le système colonial anglais. Cela le mènera en prison pour une année en tant que meneur idéologique, mais il nie son implication directe dans les attentats perpétrés contre des magistrats notamment. Pendant cette année de prison, il dit avoir vécu une série d'expériences spirituelles qui l'auraient conduit à expérimenter des états de conscience au-delà du nirvana. Il en sort toujours virulent et ses écrits contre le pouvoir anglais l'obligent à se réfugier au comptoir français de Pondichéry afin d'éviter une nouvelle fois la case prison. Je cite: Mon idée était une révolte armée dans l'Inde entière, ce qu'il faisait à cette époque comme de s'attaquer aux magistrats, etc., était tout à fait puéril. Fin de la citation. Affirmant alors qu'il y a une lutte pour l'avenir de l'humanité au-delà de la lutte légitime pour l'indépendance de l'Inde, il se consacre alors à ses recherches spirituelles et à la composition de ses œuvres. Selon Sri Aurobindo, la philosophie spirituelle est une des quatre voies de l'évolution, comme l'occultisme, la pratique des yogas, l'expérience spirituelle et la religion. Au-delà des plus hautes cimes supraconscientes de la conscience mentale, Aurobindo affirme qu'il nous est possible d'expérimenter un supramental, qui est une connaissance directe de la vérité, aujourd'hui connaissable indirectement et partiellement par notre intelligence mentale. Je cite: Par supramental, j'entends la conscience de vérité, par laquelle le divin connaît non seulement sa propre essence et son être propre, mais aussi sa manifestation. Fin de citation, mais ailleurs il précise également. Je cite: Une description mentale de la nature supramentale ne pourrait que s'exprimer soit en termes trop abstraits, soit en image mentale qui pourrait la transformer en toute autre chose que sa réalité. Fin de citation. Bon, à cette lecture, on comprend aisément pourquoi il est qualifié en Inde de gourou pour occidentaux. Alors, il faut signaler que le mot gourou, GURU en indien, ça veut plutôt dire guide spirituel. Il n'y a pas forcément, en Inde en tout cas, la connotation sectaire que le terme a en Occident. En Occident, il est assez clair, et c'est vrai qu'il y a plein de cas. Quand on parle de gourou, en fait, on parle de secte, et c'est le gourou de la secte. Ça sous-entend que les gens qui sont sous son influence sont complètement manipulés, donnent tout leur argent, et bien souvent des faveurs sexuelles, au gourou. Bon, en Inde, c'est pas tout à fait la même connotation, du moins qu'elle est moins négative, on va dire. Je continue. Il fonde progressivement un ashram, donc théoriquement c'est un lieu de recueillement isolé en pleine nature, mais lui, son ashram, lui, se situe en plein centre de Pondichéry, une ville située sur la côte est de l'Inde, donc au bord de l'océan Indien. Donc c'est quand même une ville qui comptait déjà en 1936 300 000 habitants, et aujourd'hui on est largement à plus d'1 million d'habitants. Donc ça c'est pour lui. Elle, c'est Blanche Rachel Mira Alfassa, alias la mère, née en 1878 à Paris d'un père banquier juif turc et d'une mère juive égyptienne. Bourgeoise parisienne, après deux mariages et quelques voyages en Algérie, au Japon, elle atterrit auprès de Sri Aurobindo qui lui confie la direction de l'ashram de Pondichéry quand lui va se retirer du monde. Il y a également un Français, Bernard Anginger, neveu du dernier gouverneur français d'Inde, renommé Sat Prem par Mira Alfassa. Il écrira Les causeries de la mère à l'ashram en 13 tomes, ainsi qu'un livre connu en Occident d'introduction à la pensée d'Aurobindo, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, paru en 1964. Donc c'est vraiment ce livre qui a fait connaître Aurobindo, on va dire, dans la sphère francophone. Alors ce monsieur Bernard Anginger, il avait d'abord vu au départ André Gide comme son premier maître spirituel, donc André Gide, l'écrivain pédocriminel. De nombreux disciples guettent donc les rares apparitions de la mère qui, silencieuse à son balcon, scrute cette foule, fixe les uns et les autres dans les yeux qui se sentent transcendés par ce regard silencieux. Sri Aurobindo est depuis longtemps reclus pour sa quête intérieure et ne voit plus personne à part ses serviteurs, donc là on est dans les années 60. En 1968, et proche de la mort, donc Mira Alfassa, elle mourra 5 ans plus tard à l'âge de 95 ans, donc en 73. Mira Alfassa, avec l'assistance de nombreux riches partenaires occidentaux et indiens, donc l'UNESCO, Tata Industries, qui est une industrie automobile mais aussi en métallurgie, Indira Gandhi, on y reviendra tout à l'heure, la fille du Premier ministre indien Nehru, et entre autres aussi un architecte français, Roger Anger, il lance le projet Auroville, comme Aurobindo, ou comme l'Aurore, pour le marketing en français, faisant acheter à l'ashram 2000 hectares de friches un peu au nord de la ville. La mère écrit et déclame de sa voix chevrotante la charte d'Auroville avec laquelle les Auroviliens devront se débrouiller. Donc je cite la charte d'Auroville. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit point. Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir. Profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut hardiment s'élancer vers les réalisations futures. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Fin de citation. Voilà. Alors, décliné par les pionniers auroviliens en 1970, donc 2 ans plus tard, ça donne un texte qui s'appelle Le Rêve. Il devrait y avoir quelque part sur la Terre un lieu dont aucune nation n'aurait le droit de dire il est à moi, où tout homme de bonne volonté ayant une aspiration sincère pourrait vivre librement comme un citoyen du monde et n'obéir qu'à une seule autorité, celle de la suprême vérité. Un lieu de paix, de concorde, d'harmonie, où tous les instincts guerriers de l'homme seraient utilisés exclusivement pour vaincre les causes de ses souffrances et de ses misères, pour surmonter ses faiblesses et ses ignorances, pour triompher de ses limitations et de ses incapacités. Un lieu où les besoins de l'esprit et le souci du progrès primeraient la satisfaction des désirs et des passions, la recherche des plaisirs et de la jouissance matérielle. Dans cet endroit, les enfants pourraient croître et se développer intégralement sans perdre le contact avec leur âme. L'instruction serait donnée non en vue de passer des examens ou d'obtenir des certificats et des postes, mais pour enrichir les facultés existantes et en faire naître de nouvelles. Les titres et les situations seraient remplacés par des occasions de servir et d'organiser. Il y serait pourvu aux besoins du corps également pour tous, et la supériorité intellectuelle, morale et spirituelle se traduirait dans l'organisation générale, non par une augmentation des plaisirs et des pouvoirs de la vie, mais par un accroissement des devoirs et des responsabilités. La beauté sous toutes ses formes, artistique, peinture, sculpture, musique, littérature, sera accessible à tous également, la faculté de participer aux joies qu'elle donne étant limitée uniquement par la capacité de chacun et non par la position sociale ou financière. Car dans ce lieu idéal, l'argent ne serait plus le souverain seigneur, la valeur individuelle aurait une importance très supérieure à celle des richesses matérielles et de la position sociale. Le travail n'y serait pas le moyen de gagner sa vie, mais le moyen de s'exprimer et de développer ses capacités et ses possibilités, tout en rendant service à l'ensemble du groupe qui, de son côté, pourvoirait aux besoins de l'existence et au cadre d'action de chacun. En résumé, ce serait un endroit où les relations entre êtres humains, qui sont d'ordinaire presque exclusivement basées sur la concurrence et la lutte, seraient remplacées par des relations d'émulation pour bien faire, de collaboration et de réelle fraternité. Fin de citation. Donc, un autre petit dernier, je suis désolé, mais histoire de bien rentrer dans l'état d'esprit des origines. Donc, être un vrai Aurovilien. Donc, pareil, ça a été écrit en 1970. 1. La première nécessité est la découverte intérieure pour savoir ce que l'on est vraiment derrière les apparences sociales, morales, culturelles, raciales, héréditaires. Au centre, il y a un être libre, vaste, connaissant, qui s'offre à notre découverte et qui doit devenir le centre agissant de notre être et de notre vie à Auroville. 2. On vit à Auroville pour être libre des conventions morales et sociales. Mais cette liberté ne doit pas être un nouvel esclavage à l'ego, à ses désirs et ses ambitions. L'accomplissement des désirs barre la route à la découverte intérieure qui ne peut s'accomplir que dans la paix et la transparence du parfait désintéressement. 3. L'Aurobindien doit perdre le sens de la possession personnelle pour notre passage dans le monde matériel, ce qui est indispensable à notre vie et à notre action est mis à notre disposition suivant la place que nous devons occuper. Plus nous sommes consciemment en rapport avec notre être intérieur, plus les moyens exacts nous sont donnés. 4. Le travail, même manuel, est une chose indispensable à la découverte intérieure. Si l'on ne travaille pas et si l'on ne met pas sa conscience dans la matière, celle-ci ne se développera jamais. Laisser la conscience organiser un peu de matière à travers son corps est très bon. Mettre de l'ordre autour de soi aide à mettre de l'ordre en soi. On doit organiser sa vie, non pas selon des règles extérieures et artificielles, mais selon une conscience organisée intérieure, parce que si on laisse la vie sans lui imposer le contrôle de la conscience supérieure, elle devient flottante et inexpressive, c'est gaspiller son temps dans ce sens que la matière reste sans utilisation consciente. 5. La Terre tout entière doit se préparer à l'avènement de l'espèce nouvelle, et Auroville veut travailler consciemment à hâter cet événement. 6. Peu à peu, nous sera révélé ce que doit être cette espèce nouvelle, et en attendant, le meilleur moyen est de se consacrer entièrement au divin. Fin de citation. Donc, au-delà d'un monde sans argent, sans guerre, sans ego, plein de bienveillance, de travail bénévole et de méditation, on notera évidemment le credo de la libération des apparences et des conventions morales. Credo bien connu qui nous fait toujours bien saigner les oreilles à Wanted Pedo, tant on sait combien ce concept a de tout temps été repris par le lobby pédocriminel afin de limiter pour, entre guillemets, l'émancipation des humains, c'est-à-dire le droit des pédos à violer des enfants en toute impunité. Mais on y reviendra. Lors de l'inauguration d'Auroville en 1968, en présence du président de la République indienne et sous l'égide de l'UNESCO, des jeunes de 124 nations différentes et de 23 États indiens ont déposé une poignée de leur terre natale dans l'urne, une structure recouverte de marbre sous la forme d'un bourgeon de lotus symbolique situé au centre de l'amphithéâtre. La charte d'Auroville, écrite à la main en français par la mère, repose avec ce sol scellé dans l'urne comme un puissant message et une promesse. Rapidement, des hippies, dont une grande majorité de Français, en quête de fonder une nouvelle société, débarquent pour y édifier la ville de demain comme le terreau de l'humanité du futur. Certains y vivent encore. Il y a encore aujourd'hui 25% de Français parmi les Auroviliens, et le français est l'une des quatre langues officielles. Une inauguration donc solennelle est faite avec drapeaux, enfants, discours, colombes, etc., etc. Nous n'allons pas non plus nous appesantir sur tout ça. Si ça vous intéresse, il y a le site d'Auroville avec notamment le pavillon de France où on vous met le lien. Ça vous donnera plus d'éléments si ça vous intéresse. Voilà. Les gourous en Inde aujourd'hui. Avant de poursuivre l'épopée d'Auroville, il faut contextualiser un peu en parlant du rapport qu'a le peuple indien encore aujourd'hui avec des, entre guillemets, maîtres spirituels qui sont nombreux et rassemblent les foules. Imaginez que si Jésus-Christ apparaisse aujourd'hui en Europe, pensez-vous que des masses d'individus arriveraient à lever leurs yeux de leur smartphone? Je suis pas sûr. Par contre, en Inde, ainsi que dans les pays environnants, des prophètes émergent tous les ans et suscitent plus ou moins l'enthousiasme des foules. Il y a 100 ans, ces prophètes étaient plutôt dans la pauvreté volontaire, un peu à l'image des sadhus. Mais aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, ils se constituent rapidement des fortunes avec les dons des disciples et fondent des religions dont ils sont le Dieu vivant. Donc on va citer la Gita Dolia, qui est une petite fille qui a grandi auprès de la mère et qui exprime bien cette chose. Je cite: Pour vous, donc les Occidentaux, c'est peut-être impensable de suivre quelqu'un, mais pour nous, donc les Indiens, c'est normal. Elle, donc la mère, était mon gourou. Elle va décider mon futur. Le gourou, c'est celui qui guide, c'est celui qui aide pour la vie intérieure et extérieure. Pour moi, c'est elle qui représentait ce que je cherchais en ultime. Fin de citation. Donc ça, c'est une petite indienne, mais en fait, on a le même discours dans un autre reportage d'une petite fille occidentale. Et c'était pas dans l'article, mais je vous le dis en plus. Donc l'intervieweur lui dit, mais alors toi, tu veux faire quoi dans la vie? Et la petite, elle a 8 ans, elle dit: Ah non, non, mais c'est pas à moi de choisir, moi je sais pas, c'est la mère qui va me dire ce que je dois faire dans la vie. Il dit: Mais tu pourrais choisir toi-même. Il dit: Non, non, c'est elle qui sait ce qui est bon pour moi. Donc il y a quand même cette dimension voilà, de guide, mais on n'est pas dans l'émancipation, libre arbitre. Hein, voilà. continue. Intéressons-nous donc à certains de ces gourous, en commençant par le Népalais Ram Bahadur Bamjan, alias Buddha Boy, car il est censé être la réincarnation de Bouddha, rien que ça. L'hindouisme présente certes la vie comme une étape d'un cycle de réincarnation, sauf que Bouddha a théoriquement mis fin au cycle de réincarnation justement en atteignant le samsara. Mais bon, c'est un détail et visiblement tout le monde s'en fiche. Il était aussi appelé Palden Dorje, donc un nom tibétain reçu d'un autre lama, Sombhadur Lama. À 15 ans, il est prétendument resté en méditation au pied d'un arbre pendant 6 mois sans manger, boire ni dormir. Sauf qu'entre 17h et 5h du matin, était déployé un écran de tissu pour le cacher du regard du public. D'autre part, personne à part sa famille n'était autorisé à l'approcher à moins de 50 mètres. En décembre 2005, il a été observé et filmé par un comité de 9 scientifiques sous la tutelle d'un prêtre bouddhiste, Gunjaman Lama, durant 48 heures, sans pouvoir cependant l'approcher à moins de 3 mètres. Le comité a demandé à lui prélever son sang afin de vérifier son taux de sucre et savoir s'il s'était nourri, mais la demande a été refusée comme tous les autres examens médicaux. Ses proches justifiaient ses refus en invoquant que sa méditation ne devait en aucun cas être perturbée. Il faisait des méditations miraculeuses dans la jungle, pouvant rassembler des milliers de personnes. Bref. Cependant, dès 2010, des dizaines de plaintes pour agression sexuelle sur mineurs faisant partie de ses disciples ont été déposées, ce qui a mené à une traque de la police népalaise pendant plusieurs années. Des nonnes auraient été violées, pire, certaines d'entre elles, ainsi que des disciples, sont portées disparues. Il a finalement été arrêté en janvier 2024 dans une région reculée du Népal avec 200 000 euros en liquide et des devises étrangères. On peut faire le lien avec tout le mouvement bouddhiste tibétain, dont la, entre guillemets, persécution par la Chine est instrumentalisée par les USA pour nuire à l'image justement de la Chine communiste depuis des décennies, et aujourd'hui le mouvement bouddhiste tibétain est réfugié en Inde à Dharamsala. Les dernières frasques du très vieux Dalai Lama actuel, qui demande à un gamin de lui sucer la langue en public, n'est que la continuation d'une très longue liste d'abus commis dans les cercles bouddhistes. En 2021, un documentaire d'Arte avait fait du bruit en montrant que les abus sexuels sur mineurs sont couverts par les autorités du bouddhisme, par exemple Mathieu Ricard, en France, comme dans toutes les institutions à notre connaissance, que ce soit l'Église catholique, les Témoins de Jéhovah, l'Éducation nationale, le scoutisme, les fédérations sportives, voilà, il y a différents liens, il y a le lien du documentaire, ça vous intéresse. Mais on ne va pas plus s'étendre sur le cas du bouddhisme pour blanc, ça fera un article entier à lui seul, et c'est pas l'objet de celui-ci. Nous ne prendrons donc que quelques exemples en France pour illustrer très rapidement. Donc, par exemple ici, en Saône-et-Loire, à Dachang Kagyu Ling, le temple des 1000 Bouddhas, dans la commune de Laboulaye, avec le lama Karma Chojai, 56 ans, qui a été condamné à 12 ans de réclusion en criminel pour des viols et agressions sexuelles, notamment sur mineurs, dont certains remontent aux années 1990. Un autre exemple, en Dordogne, à Dakpo, à Saint-Léon-sur-Vézère, avec les viols de 3 majeurs bénévoles en 1998 et une agression sexuelle sur un garçon mineur, stagiaire à Dakpo, en 2000, par le lama local. Les faits étant prescrits, c'était avant la nouvelle loi sur le délai de prescription, il n'a pas été condamné. Donc il y a quand même des bénévoles qui sont restés plus de 20 ans à vivre dans une grotte, entre 20 ans et 40 ans, dans une précarité totale, elles étaient des servantes, et elles étaient aussi des esclaves sexuelles, elles n'avaient même pas de carte vitale, rien n'était déclaré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du modèle de société, c'est formidable. Évidemment, on est sur des communautés bouddhistes en France, mais entre guillemets, pas complètement étiquetées sectaires, on va dire. Mais il y en a aussi. Donc on peut parler, par exemple, d'autres sectes bouddhistes, comme le Mandarome, fondé par Gilbert Bourdin, 1923-1998, alias Swami Hamsananda Sarasvati, donc à Castellane, ou encore le fameux OKC, Ogyen Kungzang Choling, belge de Robert Spatz, alias Lama Kungzang Dorje, installé dans un ancien château de Templiers à Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence. Et oui, c'est bien exactement la même commune que le Mandarome, c'est formidable. Après avoir purgé sa peine de prison minimaliste, Robert Spatz, aujourd'hui, il coule désormais des jours paisibles, planqués en Espagne, en Andalousie. Formidable. Donc je vous mets des liens sur l'OKC, on a fait un article réseau, il y a différents documentaires. Voilà, on va pas s'étaler. Le mandarin, il y a plein de choses aussi qui existent. Et puis pour finir, nous pourrions aussi parler de cette autre réincarnation divine qui est Satya Narayana Raju, 1926-2011, alias Sai Baba, capable d'ubiquité, donc d'être dans plusieurs endroits en même temps et de faire disparaître des objets. Il se prétendait être la réincarnation d'un saint indien du 19e siècle, Shirdi Sai Baba. Son organisation possédait à sa mort plusieurs milliers de centres dans 114 pays, avec soi-disant 10 millions d'adeptes dans le monde. D'autres sources indiquent même qu'il pourrait être entre 30 et 100 millions, ses adeptes. Aujourd'hui, cette organisation gère toujours plus de 40 écoles et 30 instituts d'éducation. Je vous laisse voir leur site. Ses funérailles ont été célébrées dans toute l'Inde. Les plus hauts dignitaires de l'État et du gouvernement ont assisté à son enterrement. Mais un responsable occidental du mouvement de Sai Baba, donc Michael Goldstein à l'époque, déclare dans un reportage de la BBC que les miracles sont là pour attirer l'attention, faire venir les gens et montrer ensuite que Sai Baba a plus à offrir que ses apparitions d'objets. Mais oui, c'est un peu de la prestidigitation quand même. À la même époque, le docteur Abraham Kovour, qui soupçonnait Sai Baba d'être un charlatan illusionniste, lui demanda à son tour d'accomplir ses miracles sous la surveillance de rationalistes. Mais Sai Baba refusa et, selon certaines sources, perdit à cette occasion un nombre important d'adeptes. Dès les années 70, de nombreuses accusations d'abus sexuels sur mineurs ont été portées à son encontre, notamment par Tal Brook, un de ses proches disciples, dans son livre par ailleurs devenu un best-seller, Lord of the Air, Tale of a Modern Antichrist, en 1976, puis dans son autre livre, Avatar of the Night, en 1982, qui s'est très bien vendu. D'autres ouvrages en Suède, donc notamment de Conny Larson, et des reportages au Danemark, intitulés Seduced by Sai Baba, relayaient les mêmes accusations. Selon le journaliste Sandhya Jain, donc Alaya Ram, donc une des victimes, déposa une plainte contre la Satya Sai Baba Society auprès de la Cour suprême de Californie en janvier 2005, mais il la retira en avril 2006, on ne sait pas pourquoi. Un site internet entier est consacré à démystifier Sai Baba et recueille notamment les témoignages de dizaines d'enfants violés par lui. Donc saibaba-du6x.org.uk. En 2004, la BBC, donc la chaîne de télévision anglaise, produit un documentaire jugé plus sérieux intitulé The Secret Swami dans sa série The World Uncovered. Donc, il aborde principalement les allégations d'abus sexuels de Sai Baba sur la personne donc d'Alaya Ram, un Américain dont les parents étaient des disciples de Sai Baba, et de Mark Roche et d'autres adeptes. Donc je vous mets le lien du documentaire. Il n'y a eu à ce jour en Inde aucun procès contre Sai Baba à partir de ces allégations, malgré leur retentissement international. Un ancien Premier ministre indien, Atal Bihari Vajpayee, juge de la Cour suprême et d'autres personnalités politiques de l'époque ont écrit une lettre prenant la défense de Sai Baba. Cependant, l'UNESCO, qui avait auparavant accordé son patronage aux activités caritatives de Sai Baba, l'a quand même retiré. Bref, vous aurez bien compris que la région indienne, hindouiste ou bouddhiste, est un terreau fertile pour les gourous en tout genre qui drainent énormément d'argent, d'occidentaux ou d'indiens, avec bien souvent à la clé l'accès à des enfants qui se font violer par les responsables, que ce soit des gourous ou des disciples. Des viols qui sont couverts par donc les disciples convaincus ou complices. Comme d'habitude, mais c'est voilà, il faut le dire pour l'ensemble de cet article, c'est valable pour les gens d'Auroville aussi. Comme d'habitude, la bonne volonté, les belles intentions, les superbes expériences que des millions de gens, entre guillemets, innocents, ont pu vivre dans ces endroits, et qui sont donc impliqués matériellement parce qu'ils y ont été, qui ont participé. Dans ces mouvements spirituels, ça ne change rien au fait. D'accord? C'est pas parce qu'on a vécu des bons moments dans tel ou tel endroit bouddhiste lors d'un stage d'une semaine et que vraiment les gens étaient gentils et qu'il n'y a rien à reprocher que ça change quoi que ce soit à ces faits ou que ça les excuse ou que ça les rattrape, n'est-ce pas? Bref, on va s'arrêter là, mais vous avez compris un peu l'idée. Force est de constater que les antennes occidentales de ces organisations spirituelles, qui se muent si fréquemment en mouvements coercitifs, plus communément appelés sectes, sont bien trop souvent des terreaux d'abus sur des personnes vulnérables mentalement et ou physiquement. une médiatisation et un financement difficilement explicables. Ceci étant dit, revenons à Auroville en 1968. Après l'inauguration, la construction du Matrimandir en forme de boule dorée commence. Il s'agit du bâtiment central d'Auroville consacré à la méditation. Des centaines de Tamouls, donc c'est la population autochtone dans cet état de l'Inde, le Tamil Nadu, et des Occidentaux avec des étoiles plein les yeux creusent la terre et plantent des arbres. À l'époque, l'ashram de Sri Aurobindo et de Mira Alfasa soutient financièrement le projet, un peu. Il est le propriétaire légal des terres, sans pour autant s'y intéresser vraiment. Le gouvernement indien, au travers notamment d'Indira Nehru, alias Indira Gandhi, première ministre de l'Inde durant toute cette période, 1966-1977, soutiendra politiquement le projet. C'est quelque chose de surprenant au vu du caractère hors sol et très occidental du projet. Certains diront que ce sont les valeurs indiennes d'accueil et d'hospitalité qui primaient afin de ne pas mettre des bâtons dans les roues de ces nouveaux arrivants et de leur aura de blanc. Mais bon. Du coup, faisons une parenthèse sur Indira Gandhi, qui, en tant que fille de Nehru, jouit d'une aura internationale. Le problème avec Indira Nehru est qu'en 1975, elle commence à perdre de son influence politique et voit qu'elle risque de perdre le pouvoir à court terme car sa dernière réélection est invalidée par la Cour suprême pour fraude électorale. Elle décide donc, sous des prétextes fallacieux et pour la troisième fois, de décréter l'état d'urgence. Mais cette fois, elle en profitera pour installer une dictature implacable qui durera 2 années. Pendant cette période, elle fera emprisonner arbitrairement plus de 100 000 opposants politiques et fera stériliser de force plus de 10 000 citoyennes. Sans oublier que 7 millions de vasectomies auraient été pratiquées sur des citoyens masculins en 1976, selon certaines sources. La campagne de stérilisation est encouragée par la Banque mondiale, l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale, ainsi que par le Fonds pour la population des Nations unies. Et des dizaines de millions de dollars y sont consacrés. Encore une fois, on connaît bien le malthusianisme criminel de ces instances mondialistes. Je vous ai mis un lien sur l'histoire cachée de l'eugénisme, avec des exemples dans les années 50 aux USA, au Pérou dans les années 90, au Kenya, en Allemagne, etc., etc. Et c'est une petite musique qui semble toujours avoir cours, désormais sur fond de réchauffement climatique, avec l'histoire de les humains, c'est le problème, on est trop nombreux, pour sauver la planète, il faut arrêter de faire des enfants, etc., etc. Et puis du coup, dans une logique mortifère, bah, finalement, tout ce qui tue les humains, bah, c'est un moindre mal, non? C'est pas si mal, etc. Enfin, voilà, dans la bouche de certains bien pensants écologistes fondamentalistes, en fait, on a vraiment des discours malthusiens qui font vraiment froid dans le dos. C'est terrible. Revenons à Indira Gandhi. Donc, les actes d'Indira sont si loin de l'image d'Épinal construite autour d'elle, vous ne trouvez pas? Ils sont très loin de l'image d'Épinal construite autour d'elle. On peut aussi se demander pourquoi l'UNESCO, l'ONU ou l'industriel Tata ont soutenu financièrement un projet de hippie anticapitaliste qui creuse la terre pour bâtir une ville au milieu de rien. Quand même. De nombreux autres mécènes, occidentaux et indiens, seront séduits par l'idée et abonderont à Auroville pour voir sortir de terre les structures de béton armées colossales du Matrimandir, comme on disait à l'époque, ou certains aiment dire, c'était l'époque, voilà. Bon, c'est un peu court, mais bon. Dès 1976 et jusqu'aux années 80, un conflit ouvert oppose l'ashram de Aurobindo, propriétaire légal par sa fondation, et une partie des Auroviliens appelés les rebelles. D'après certains, c'est un point de bascule au profit d'une partie des Auroviliens grâce à un arbitrage du gouvernement indien de l'époque avec le soutien d'Indira Gandhi. Donc il y a notamment un livre écrit par Nirmalia Mukherjee qui est intitulé Auroville, a Dream Hijacked, donc Auroville, un rêve détourné, décrit précisément donc les tractations, les corruptions et autres trahisons qui ont permis à quelques dizaines de familles qui dirigent encore aujourd'hui Auroville de mettre la main sur ces terres. Il y a également d'autres documents que je vous mets en lien. Le projet Auroville n'est donc pas reconnu formellement comme une religion, ce qui permet à l'État indien d'en garder la tutelle au détriment de l'ashram, qui, du coup, se voit spolié de 2000 hectares de terre, ce qui n'était pas la volonté de la mère, soit dit en passant. Et donc ces 2000 hectares de terre sont remis sous l'autogestion des gens qui sont, entre guillemets, donc les rebelles d'Auroville. Ainsi, encore aujourd'hui, donc Auroville reçoit donc 50 000 euros par mois de l'État indien et peut gérer lui-même son propre système de visa, ce qui est quand même hallucinant. De même, le projet a très tôt bénéficié d'un intérêt médiatique très important jusqu'à aujourd'hui, avec une bienveillance difficilement explicable. Par exemple, en 1973, Jean-Pierre Cabache, donc journaliste très connu car il était présentateur du journal télévisé de 20h entre 1970 et 1972, il va aller faire un reportage sur Auroville, diffusé aux heures de grande écoute à la télévision française. La télévision française, à l'époque, il n'y a que deux chaînes. Et générer une publicité énorme en faisant rêver la jeunesse révoltée de mai 68. Ce documentaire est écrit avec Nicole Avril, qui deviendra sa femme, et Maurice Dugoson. En fait, c'est ce dernier qui est le véritable réalisateur du documentaire. Dugoson a jusque-là travaillé pour la télévision, principalement pour l'émission Droit de réponse, qui était animée au début des années 80 par le pédocriminel Michel Polak. Aujourd'hui, il existe de nombreuses émissions qui ont été réalisées par les médias, toutes plutôt favorables à Auroville. Pêle-mêle, France 24, la chaîne publique Sénat, l'INA, France Inter, Canal+, Planète, Reporter, donc c'est un petit site écologiste, etc. On trouve aussi de nombreuses vidéos donc de youtubeurs voyageurs alternatifs qui attirent de naïfs citadins, fils de bourgeois anticapitalistes, en mal d'exotisme spiritualo-militant. On a même eu donc une tentative de schématiser carrément le système de communication d'Auroville par un Aurovillien lucide qu'on va voir après et qui est combattu par les institutions d'Auroville. Ci-dessous, comparant, alors dans la première colonne c'est en anglais, mais donc la réalité de ce que lui voit qui se passe sur le terrain. La deuxième colonne, c'est ce qui est dit par les autorités d'Auroville à l'Assemblée des Auroviliens. Et puis la troisième colonne, c'est ce qui est dit au grand public. Et on voit les différences et comment en fait on arrive à lever l'argent avec effectivement un système de communication bien rodé. Alors les moins partisans, donc c'est les qu'on a vus, c'est l'émission Fuck le système de Canal+, qui décrit Auroville comme un paradis pour vieux 68ards, très éloigné des valeurs de départ. Alors le fait que ça soit très éloigné des valeurs de départ, ça tout le monde le reconnaît, c'est dans les documentaires même favorables, il y a un certain nombre de personnes qui le disent, y compris les fondateurs, en disant qu'il faut, oui mais fallait bien vivre, fallait bien trouver des manières de fonctionner, on a fait ce qu'on a pu, la mer c'est bien gentil, mais bon, voilà, faut être pragmatique. Mais en fait la critique elle va jamais plus loin. On compte aussi de nombreux livres, a priori, aussi tous positifs, je vous ai mis le lien. Mais bizarrement, en fait, personne ne pose une question qui est pourtant évidente dans ces reportages, c'est comment Auroville gère les délits et les crimes qui y sont commis entre Auroviliens, ou entre des extérieurs sur des Auroviliens. Alors ok, ça casse l'ambiance, mais bon, c'est quand même une information intéressante pour qui veut s'y installer et n'avale pas benoîtement la fable selon laquelle tous les Auroviliens sont des êtres parfaits, et puis Auroville, il n'y a pas de crime et de délit, tout va bien. Donc pour ceux qui souhaitent avoir une présentation détaillée et entre guillemets publicitaire d'Auroville par une Aurovillienne convaincue, je vous renvoie à une vidéo qui a été faite en 2021, qui est très bien, avec un PowerPoint, etc. Plutôt axée sur l'architecture, le développement durable, mais qui est intéressante. Ci-dessous, je vous ai quand même extrait la petite diapositive à propos du système de travail à Auroville, qui montre bien comment en fait les arrivants, qu'ils appellent newcomers, et les touristes en fait alimentent Auroville en lui permettant de fonctionner, que ce soit au niveau financier ou au niveau de la main-d'œuvre, du travail bénévole. Et qu'en fait, il y a un gros turnover et ça fonctionne pas mal là-dessus, en plus d'un certain nombre de petites boîtes et de genre dynamisation de l'eau ou de petites boîtes ou de guest house ou d'hôtel. Donc voilà, plutôt du tourisme. Il faut savoir que si l'idée vous prend de construire votre maison à Auroville, donc vous souhaitez devenir Aurovillien et que vous y construisez une maison avec votre argent, hein, personne ne va vous donner de l'argent pour construire votre maison, on peut vous prêter un logement, mais si vous mettez vous de l'argent pour y avoir une maison entre guillemets à vous, bah en fait elle n'est pas à vous. Vous en êtes dépossédé si jamais vous décidez de quitter la ville, c'est-à-dire qu'elle est à vous tant que vous y êtes. Voilà. Alors après au niveau de la transmission, il faut voir, mais si jamais vous partez, ben voilà, c'est plus à vous. Ce qui mène étrangement à devoir mettre des gardiens dans sa maison quand on veut faire un voyage ou revenir en Europe quelques mois sous peine de se faire squatter la maison par les voisins et de tout perdre. Donc, vous voyez, en témoigne l'expérience difficile d'une fille de riche indienne qui a tenté en vain de devenir Eurovidienne et qui témoigne de ce genre de fonctionnement. Donc, je vous renvoie à la vidéo Comment je suis devenue pauvre en voulant devenir Eurovidienne. Après avoir un peu végété durant quelques décennies, Auroville, qui était destinée à accueillir 50 000 habitants, voit sa population grandir en atteignant péniblement le chiffre de 1853 Auroviliens en 2022, suite enfin à un recensement sérieux réalisé en porte-à-porte, sous la pression d'un certain nombre d'Auroviliens. Alors que jusque-là, ils revendiquaient 3 000 habitants durant durant au moins 10 ans. Ils disaient qu'ils étaient 3 000, ce qui n'était pas le cas. Donc ces 1853 Auroviliens comptent 50% d'Indiens et 25% de Français. À cela, il faut quand même ajouter donc les 3 à 4 000 Tamouls des villages alentours qui viennent chaque jour pour travailler pour les Auroviliens. Donc femmes de ménage, maraîchage, main-d'œuvre pour la construction, etc., etc. Et sans qui, en fait, la ville ne saurait être autonome. Ce qui pose question. Visiblement, en fait, c'est plutôt une fierté de les faire travailler car, entre guillemets, ça participe au développement local. Bon. On finira en disant que pour construire les infrastructures permettant d'accueillir les 48 000 personnes manquantes au projet, une demande de subvention de 120 millions d'euros a été faite au gouvernement indien. Donc, voilà. Auroville Files. Au sein même d'Auroville, un homme indien, Vikram Ram, qui est né, a commencé à dénoncer tout le système Auroville. D'abord, sur sa chaîne YouTube, il était très enthousiaste pour mettre en valeur toutes les facettes d'Auroville auprès du monde entier. Et en fait, l'évolution de son discours sur sa chaîne au fur et à mesure des années montre bien sa déception. Et cela reflète assez bien le parcours émotionnel typique pour une partie des gens qui s'installent à Auroville. Il en est de même pour des enfants qui y sont nés, donc en souvenir, entre guillemets, alors ça dépend de chez qui vous êtes né à Auroville, mais bon, qui y sont nés, puis ils sont partis découvrir le monde, où ils sont allés faire des études, et puis quand ils y reviennent avec des yeux d'adultes, là effectivement, ils ne voient plus les choses pareilles. Depuis 2019, il a une chaîne YouTube qui relate la mobilisation d'une partie des Auroviliens, notamment la nouvelle génération, pour assainir Auroville de ses fonctionnements corrompus hérités. Dans ses vidéos, il dénonce une mafia sur la vente des terres autour d'Auroville, des détournements d'argent et de dons, du harcèlement et des menaces, de la corruption ainsi que le noyautage des cercles de décision par quelques dizaines de familles historiques. Il dénonce aussi un système d'impunité où les crimes sont étouffés avec des corruptions des autorités locales. Qu'on n'a pas besoin de pousser beaucoup pour qui connaît l'Inde, hein, au niveau corruption, l'Inde c'est pas mal, mais quand même. Et donc il n'y a pas de système de justice fonctionnel. Les victimes sont harcelées avec les complicités des mafias locales afin de menacer les récalcitrants. Je vous mets donc quelques témoignages d'Auroviliens qui ont été assez courageux pour lui parler face caméra, et ces témoignages sont assez évocateurs en termes de désillusion vis-à-vis de la réalité de l'Auroville d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Auroville, par exemple, bah, c'est 37 trusts et une fondation, si vous voulez. Donc, je suis pas sûr que la maire avait vu ça comme ça. On retrouve sans surprise des allégations de financement d'Auroville par la fondation Open Society de George Soros, comme d'habitude. Le niveau d'éducation est très bas, car la dizaine d'écoles libres sont hors système et sont souvent inefficaces. En tout cas, c'est ce qui est dit par Vikram Ram et les Auroviliens de son côté. Je cite, alors c'est marrant parce que ça c'est très vieux, mais c'est vraiment. Je cite Jean Larroquette, donc un Aurovilien qui est là depuis 1975, et il nous dit: C'est les enfants qui ont fait leur propre révolution. Un jour, les enfants sont arrivés lors d'un meeting des Auroviliens, donc ces assemblées d'Auroviliens, ces réunions. Il y en avait deux qui étaient le porte-parole des autres et qui ont dit aux grands: Écoutez, toutes vos histoires, vos parlottes sur l'éducation, tout ceci, tout cela, c'est très bien, mais nous, on veut une école avec un maître, avec une estrade, avec un tableau, avec de la craie, et on veut travailler sur des cahiers. Fin de citation. Alors, étonnant, entre guillemets, enfin, les adultes étaient stupéfaits. Peut-être il aurait été intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi, en fait, ces gamins, ils voulaient plus de l'école à la super libre. On peut citer aussi Jean-François Pion, dans un autre documentaire, qui est professeur dans une école, enfin un collège, on va dire, d'Auroville, sans aucune formation de professeur. Au départ, il était éducateur spécialisé, donc rien à voir, depuis 1998. Et il nous dit, on devient professeur à Auroville parce qu'on comble des manques, c'est souvent ça. Autrement dit, devenir professeur ou instituteur à Auroville, c'est un jeu d'enfant, qu'on soit compétent ou pas, qu'on soit pédocriminel ou pas. Rappelons que depuis le début, Auroville a mis en place et géré des écoles. Et oui, parce que les écoles indiennes, c'était pas assez bien. Aujourd'hui, on compte au moins une dizaine d'écoles à destination des enfants habitant les villages tamouls avoisinants. Et c'est une grande fierté pour les fondateurs et les Auroviliens, et un point central qui est toujours mis en avant. Je vous mets un lien vers tout ça. Il est clair qu'à Auroville, je cite, l'enfant est au cœur du projet. Ou bien souvent, en fait, sa liberté, elle est confondue avec de la négligence, voire de la mise en danger par défaut de surveillance. Donc, je cite un autre documentaire. À travers ce bébé, je voyais l'avenir d'Auroville et il m'apparaissait radieux, puisque l'enfant est au centre des préoccupations ici. J'en croisais beaucoup sur ma route, des blonds, des bruns, des noirs, des blancs, rassemblés dans une mixité incroyable. Ils portaient tous en eux un sentiment de liberté. Donc ça, c'est Guillaume Estivier, le narrateur-réalisateur du documentaire Auroville, la ville dont la terre a besoin. Fin de citation. Donc, retenez bien ça pour la suite. Vous voyez la vision que les adultes ont des groupes d'enfants. Après, on aura la vision d'un enfant. On notera aussi l'étonnant business de site de rencontre mené par un Aurovilien allemand de deuxième génération, donc né à Auroville. Comment on veut dire, nous, en titre pédo, quand on voit ça, on a un peu du mal à... On pense à mal, en fait. Mais bon, chacun se fait sa propre opinion. Il y en a qui diront qu'on voit le mal partout, mais on voit pas trop, là. Donc, je cite Akash Heimlich. Alors, je travaille pour un site de rencontre, une compagnie qui est aux USA et en France. Elle possède environ 250 sites de rencontre et je fais la programmation pour ça depuis un an. Ce n'est pas mon entreprise, c'est une entreprise d'Auroville. Donc là, on est dans les années 2000. Donc, c'est vraiment des précurseurs. Bon, vous avez compris à quoi on pense. Voilà, peut-être qu'il n'y a rien du tout, mais je vous avoue qu'on a tiqué. On ne développera pas plus les multiples dysfonctionnements d'Auroville. Pour ceux que ça intéresse, tous les contenus et documents sont présents sur les liens cités et notamment sur donc, le site Auroville Files, là, auroville.in. Un Français arrivé en 1996 exprime dans un documentaire une vision synthétique et qui nous paraît assez lucide des choses. On va le citer, donc Stéphane, qui est là depuis 1996. Moi, ce que je vois après 8 ans, je suis arrivé avec un idéal absolu. J'ai tout donné. J'ai travaillé gratuitement pendant 2 ans. J'ai dépensé tout mon argent. C'était le don de soi total. Et puis doucement, on se réveille. On voit ce qui se passe. On voit les histoires, les coups foireux. Toute l'humanité dans sa beauté, quoi. Pour moi, de rester dans Auroville, ça ne fait plus de sens. Parce que ce fameux idéal pour lequel j'étais venu, il est crié, il est placardé partout, écrit partout, mais il n'existe pas. Je suis très critique, je pense que Auroville a complètement perdu son centre. Dans ce que j'en perçois, il y a différentes sortes de catégories de gens. Il y a des gens qui viennent ici en retraite, ils ont une petite rente en France ou à l'étranger, et donc ils viennent ici, bah c'est du dilettantisme, quoi. Ils font rien. Une autre partie de la population vient en vacances, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Une fois qu'ils ont passé leur première année à donner des chaussettes au Matrimandir et servir à la Solar Kitchen, donc qui est la cuisine collective presque gratuite, on va dire, du centre d'Auroville. Ensuite, bah, ils peignent, ils chantent, ils font de la méditation ou de la danse. Fantastique. Ensuite, il y a une certaine partie de la population qui fait du business. Et on en a besoin car ceux-là, en fait, ils payent aussi des taxes à Auroville qui font vivre tous les autres qui ne font rien. Auroville, un bon gros nid à pédos. En 2008, la BBC diffuse un documentaire dénonçant les abus sexuels sur mineurs ayant lieu à Auroville et autour. Des abus couverts par les autorités d'Auroville. On y voit un Français, déjà condamné en France pour pédocriminalité, qui a continué à fréquenter pendant 5 ans des enfants tamouls dans les écoles d'Auroville, alors qu'il avait des comportements suspects. Il a finalement été écarté, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de partir, et cela a cessé en 2004, quand il s'est finalement fait coincer pour d'autres viols où il a été condamné en dehors d'Auroville, donc plus de 8 ans après son arrivée. Un ex-Aurovillien qui a déménagé à Pondichéry, écœuré, témoigne que les autorités d'Auroville ne se sentent pas concernées si les viols sont commis sur des enfants tamouls non auroviliens. La plage la plus proche d'Auroville, Oro Beach, donc juste le point le plus proche de l'océan quand on part à Auroville au nord de la ville, vous partez vers l'est, vous tombez sur l'océan, c'est Oro Beach. Est le point de rencontre facile entre les enfants prostitués et les pédocriminels qui sont carrément servis à domicile. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, et tout le monde se tait. Et tous les Auroviliens qui se baignent sur la plage le savent évidemment. De nombreux témoignages d'enfants devenus adultes sont édifiants. Des politiciens locaux dénoncent depuis des années le fait que les criminels, locaux et du monde entier, se réfugient à Auroville pour échapper justement à la police et à la justice, et que la prostitution de mineurs est banale dans et autour d'Auroville. On citera notamment l'homme politique local Nandi Varman du petit parti politique Dravida Peravai. Les populations locales voient les Auroviliens ou les touristes occidentaux non auroviliens comme beaucoup trop puissants pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit contre eux. En effet, ils donnent du travail et sont en lien avec des mafias qui menacent de mort les familles de victimes qui voudraient parler. Si vous comprenez l'anglais, prenez 12 minutes pour le regarder, c'est édifiant et on va même essayer de le sous-titrer. Cette vidéo avait provoqué un scandale, mais aussi des protestations des Auroviliens avec une pétition clamant l'absence de preuves et dénonçant un reportage, selon eux, sensationnaliste. Auroville avait dans la foulée consacré un article dans leur newsletter destiné aux donateurs du Royaume-Uni d'août 2028 sur la protection de l'enfance. Il était écrit qu'Auroville allait lancer des recherches de subventions pour sensibiliser grâce à un groupe de travail pour la protection de l'enfance, le Child Protection Group, et la formation d'un responsable. N'est-ce pas une preuve que le problème n'avait jamais été traité depuis la création d'Auroville? En tout cas, jamais de manière institutionnelle, sérieuse, jamais pris à bras-le-corps. Auroville a aussi déposé une plainte extrêmement détaillée auprès de l'Ofcom, l'autorité des régulations des médias au Royaume-Uni, donc l'équivalent du CSA en France, contre la BBC. Donc je vous mets le lien, dont ils ont été déboutés. Donc cette plainte n'a pas eu de suite. Ils disent qu'ils ne peuvent pas contrôler les activités des nombreux gîtes qui fleurissent un peu partout dans et autour d'Auroville et que c'est injuste de les accuser comme ça. Alors donc c'est intéressant quand même, ils ont conscience qu'il y a des choses qui se passent dans ces gîtes. Que la police attribue souvent des méfaits à tort aux Auroviliens, mais qu'ils sont quand même en lien avec eux et que les Auroviliens ne tolèrent pas la pédocriminalité. Qu'ils n'ont pas eu de droit de réponse, alors ce qui est faux, puisqu'en fait, dans le reportage même, il y a un responsable, Karel Thiem, d'origine belge, je crois, qui s'est exprimé directement à la fin du reportage, mais bon. Qu'ils gèrent de nombreuses écoles en lien avec la Commission européenne et le gouvernement local, et que s'il y avait des viols d'enfants, ils seraient forcément découverts et enquêtés. Finalement, ils avouent eux-mêmes en fait le point crucial du problème, sans s'en rendre compte, en disant que les témoins qui sont dans le reportage sont des gens à qui on a demandé de quitter Auroville car ils ont eu des comportements inappropriés et donc se vengeraient dans ce reportage. Donc des gens qui se feraient passer pour des ex-enfants victimes de viols, mais en fait inventeraient tout pour se venger. Bon. Mais du coup, là, on comprend en fait le traitement qui est réservé par Auroville aux délinquants et aux criminels. On leur demande de partir et on le signale aux autorités. Et puis c'est tout. Donc de facto, ils ne livrent pas les criminels aux autorités indiennes. Alors en même temps, il faudrait les attraper, les menotter. Mais ils ne font pas non plus intervenir la police indienne dans Auroville. Et comme il n'y a pas de police aurovillienne, ben, en fait, juste, ils leur demandent de partir. Donc oui, en fait, vous lisez bien. Auroville, en fait, c'est une zone de non-droit. Et c'est bien logique, puisque c'est un projet autogestionnaire où on refuse l'État et tout le reste. Mais comment on fait pour gérer la réalité si les humains, ils sont pas tous gentils, en fait? Pour mieux comprendre l'ambiance, le mieux est de lire ce témoignage poignant paru dans la presse anglaise suite au reportage de la BBC par un enfant devenu adulte qui a vécu à Auroville durant 6 mois en 1982. Donc on l'a traduit, c'est mon titre pédo qui a fait la traduction, donc je vais vous le dire. C'est édifiant. Mon étrange enfance à Auroville, par Loïc Rich. Je n'ai pas été surpris par les allégations d'abus sexuels sur des enfants à Auroville, une communauté avant-gardiste d'Européens installés en Inde, formulée cette semaine par une équipe de reporters de la BBC. Quand j'avais 9 ans, j'y ai vécu 3 mois, en 82, pardon, 3 mois. Cet endroit est une secte religieuse qui expose l'arrogance, la naïveté et le déni d'une certaine classe moyenne libertaire, voire bourgeoise. Cela met les enfants en danger. Ville composée de grandes structures ressemblant à des temples situées au milieu des palmiers dans la région du Tamil Nadu au sud-est de l'Inde, Auroville promeut une philosophie humaniste, des éléments du mysticisme indien et une attitude de style frontière américaine. Cela soit vous épuise, soit vous endurcit. Les adultes travaillent dans la construction, dans l'agriculture ou même dans un journal. La parentalité n'est pas une grande priorité. N'importe qui pouvait être tuteur des enfants et ils étaient laissés libres dès l'âge de 6 ans. Ma propre mère nous a laissés, moi et ma sœur de 7 ans, livrés à nous-mêmes et a disparu dans une partie reculée de la communauté pour être avec son amant. Nous avions un endroit où dormir, une école primaire bien gérée et des excursions le week-end. Aux heures des repas, les enfants mangeaient de manière autonome, selon un ensemble de règles non écrites. Si vous mettiez la main sur des friandises, vous les partagez avec le groupe, sinon vous mangiez dehors. Les adultes semblaient être là pour subvenir à nos besoins, mais avec un désengagement émotionnel total. Lorsque l'infection causée par une ampoule s'est propagée dans tout mon bras et que j'ai demandé de l'aide à ma mère, elle m'a simplement rejeté comme un demandeur d'attention et j'ai dû me rendre seul chez le médecin à vélo. Il m'a immédiatement emmené d'urgence dans un hôpital qui n'avait plus d'anesthésique. Je me souviens avoir été tenu par 6 médecins pendant que l'un d'eux faisait une incision avec un scalpel et qu'un autre expulsait le pus de mon bras. J'ai appris à m'intégrer aux autres enfants et nous sommes devenus émotionnellement dépendants les uns des autres. Une sorte de famille, où les enfants les plus âgés s'occupent des plus jeunes. Le sexe était un sujet de discussion brûlant. N'ayant que 9 ans, je connaissais peu les choses de la vie, jusqu'à ce qu'elles soient décrites de manière graphique et alarmante par mes pères d'Auroville. Donc c'est les enfants plus grands qui étaient avec lui. J'ai entendu parler d'actes sexuels entre camarades de classe, d'actes sexuels avec des enfants des villages tamouls environnants, et même de ce que je considérerais aujourd'hui comme de graves abus commis sur des enfants par des adultes. Effectivement, ma sœur a dû repousser à 2 reprises une tentative d'agression d'un adulte qui insistait pour qu'elle accepte de la ramener chez elle à vélo. Il y a eu des incidents terrifiants d'attentats à la pudeur. Nous, les enfants, avions rationalisé les tentatives d'abus en les considérant comme quelque chose, au même titre que les serpents, la mousson et les scorpions, auxquels on devait faire face à Auroville. La solidarité qui nous unissait tenait pour moitié de Sa Majesté des Mouches, donc un livre où je me mets le lien, et pour moitié de la secte Johnstone, pareil, je vous ai mis le lien. En somme, nous partagions une haine envers les enfants tamouls locaux, qui apparemment se prostituaient pour seulement 5 roupies, et d'autres qui avaient été exclus de l'école pour divers délits. J'ai moi-même subi ce sort lorsque j'ai été condamné à tort pour avoir volé un sac à main par un conseil autoproclamé d'enfant. J'ai été banni de l'école primaire et exclu de l'endroit où je pouvais dormir, méfié même des adultes, et ils m'ont exilé dans une cabane isolée sur des pilotis dans un bois. La solitude m'a rendu plus fort, je me suis lié d'amitié avec 2 autres parias, au nom Loufoque, Gandalf et Mooney. En dépit de des horreurs vécues, il y avait enfin une lueur d'espoir et de bienveillance dans cet endroit. Après que ma mère se soit séparée de son petit copain et soit tombée malade, nous sommes retournés au Royaume-Uni. Des jeunes gens naïfs viennent à Auroville en quête de paix spirituelle. Bien qu'elle prône la philosophie semblant charitable de vivre en harmonie avec la nature et ses voisins, et bien qu'elle ait le soutien des Nations Unies et du gouvernement indien, la communauté d'Auroville échoue dans son objectif le plus fondamental. Donc, entre parenthèses, protéger les enfants, donner de la sécurité à tout le monde. Auroville ne sait tout simplement pas comment prendre soin des gens qui viennent là-bas. Fin de citation. Il est limpide que le secte avec les enfants a toujours existé à Auroville et a certainement été plus ou moins toléré dans la lancée des mouvements militants pédocriminels des années 70, mettant en avant l'émancipation des carcans moraux. On ajoute à cela la prostitution des gamins tamouls, qui est aussi une constante depuis le début. J'en profite pour vous glisser une petite anecdote personnelle. En voyage en Inde pour des raisons familiales, mon frère a épousé une Népalaise. Nous avons rencontré dans le bus entre Delhi et Katmandou un trentenaire d'origine turque qui vivait à Goa, avec sa femme d'origine danoise et donc son beau-père depuis plusieurs années. Le couple avait une petite fille de 4 ans. Ce sont donc des hippies 2.0, version psy-trans, ecstasy, etc., LSD, comme vous pouvez vous en douter. Mais bon, le voyage dure 48 heures, donc on a eu le temps de discuter, bien sympathique tout ça. Et à un moment donné, il se confie un peu et il me dit que lui, en fait, il fait l'amour avec sa femme devant sa fille. Je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, bah en fait, c'est naturel. Et en fait, c'est normal qu'elle connaisse ça. Ça fait partie des choses de la vie. Voilà, limite, c'est un enseignement comme un autre. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Sans faire de suppositions sur ce que sa fille subit déjà ou va subir dans le futur, on imagine aisément combien il est facile pour un pédocriminel de venir se servir dans ces milieux. Le New Age est une catastrophe pour les enfants qui y sont confrontés. La plupart des gens dans ces milieux sont perdus ou perchés et donc des proies faciles pour les manipulateurs et les agresseurs. En 2015, une étude a démontré que le tourisme pédocriminel a explosé à Pondichéry. Donc ça, c'est 7 ans plus tard après le reportage de la BBC, hein. En effet, une thèse réalisée par Siva Mathiasangan au département de sociologie de l'université de Pondichéry montre que le tourisme pédocriminel est florissant et se concentre principalement sur la zone entre le front de mer du centre, appelé donc White Town, le quartier donc qui est entre l'ashram de Sri Aurobindo et l'océan, et Oro Beach, et aussi autour d'Oroville. Je vous ai fait une petite carte pour vous rendre compte. Donc c'est exactement la même zone que la BBC décriait. La clientèle qui incite et viole des enfants de familles très pauvres est principalement étrangère, touristes réguliers ou résidents, aussi étrangers, gérants par exemple de restaurants ou d'agences touristiques. Souvent les enfants vont dans les hôtels et légistes, les guest houses, avec la complicité des propriétaires. On peut citer quelques faits divers trouvés ça et là sur le net qui parlent de viol de mineurs à Auroville. Vikram Ram, dans une vidéo consacrée à la pédocriminalité à Auroville, confirme que suite à ses actions, il a eu les confidences d'une dizaine d'Auroviliens, plusieurs dizaines d'Auroviliens, sont venus lui rapporter qu'eux aussi ont subi des abus sexuels dans leur enfance et qu'ils préfèrent se taire. Un début de remise en question. Suite à tout cela, visiblement, pas grand-chose n'a été fait pour remédier au fléau de la pédocriminalité, tant à Auroville que dans les alentours. On peut noter que le Child Protection Service, donc une partie d'Auroville qui était censée être consacrée à ça, ne montre aucune activité sur le wiki d'Auroville, que ce soit là ou là. Les seules choses qu'on va trouver, c'est que sur la période de 2007 à 2011, un universitaire canadien traitant de questions sociales familiales, pas vraiment spécialiste de la pédocriminalité, Peter Shoat est intervenu pour parler du sujet. Je vous mets son Twitter. Il est interviewé par la radio d'Auroville en 2010 pour dire que la solution serait de, tenez-vous bien, je cite, il faut briser le silence en ménageant des espaces de discussion entre abuseurs et enfants abusés aux yeux de la communauté. Fin de citation. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à trouver les pédocriminels qui avoueront publiquement leurs actes et s'excuseront auprès de leurs victimes. Ben voilà, il n'y a qu'à Faucon, claquant des doigts. Il est facile de reconnaître ici aussi la fameuse justice restauratrice que certains prônent en France. C'est-à-dire qu'en fait, on confronte les abuseurs et les enfants violés en espérant que les enfants vont être contents de se retrouver face à ces gens-là. En espérant que le pédocriminel va s'excuser sincèrement, voire même essayer de, pourquoi pas, carrément se dire, mais en fait, on va remettre l'enfant auprès de l'abuseur qui, maintenant qu'il est devenu bon et a tout compris, et est devenu quelqu'un de bien, ne va pas recommencer. Mais enfin, c'est comme si on retraumatisait l'enfant. C'est complètement fou. Interrogé de façon bien plus pertinente l'année suivante sur la même radio, donc le même Peter Shoat, ah là, enfin, il évoque des choses un peu plus sérieuses. Donc le tourisme sexuel qui est un phénomène croissant en Inde, car d'autres pays ont commencé à le réprimer, notamment la Thaïlande, le Cambodge et les Philippines. Il évoque aussi le fait que de nombreux Occidentaux viennent pour être bénévoles dans des ONG humanitaires au contact des enfants afin de les violer. Il évoque également le trafic d'enfants esclaves sexuels en Inde en direction de l'Occident, qui est une pratique courante au travers des adoptions et de la GPA, parmi d'autres mécanismes. Il souligne le fait que le dialogue entre les gens qui s'intéressent au sujet permet de former une sorte d'alliance autour d'Auroville ou à Pondichéry de personnes plus vigilantes qui rendent la pédocriminalité plus difficile à réaliser. Waouh! Visiblement, il a commencé à atterrir. Donc c'est bien, c'est comme si en fait en un an il avait peut-être travaillé un peu le sujet sur Internet entre ses deux voyages. Tant mieux. Mais voyez la suite. Puis vient donc une bonne question de l'intervieweuse. Elle dit quelles sont les sanctions pour ce genre, je cite, hein, quelles sont les sanctions pour ce genre de créatures, donc de pédocriminels, ici à Auroville? Ah, et oui, c'est bien ça la question. Et là, il répond. Disons qu'Auroville est aujourd'hui engagé dans le fait de vouloir traiter cette question. Je pense que ce qui est important à Auroville est la préservation des familles, de leur unité en tant que communauté. Et donc, si on trouve un agresseur parmi les Auroviliens, c'est comment peut-on arriver à soigner cette personne et à la reconnecter avec le but d'Auroville? Si c'est un visiteur qui est certainement venu ici pour ça, alors il faut voir si on doit impliquer la police ou on doit lui demander de partir. Fin de citation. Donc là, on stagne complètement dans les bons sentiments et en fait, il prône l'impunité globalement. La priorité, c'est l'unité des familles et de la communauté. Ah, donc il est clair que cette personne n'aidera pas à protéger les enfants d'Auroville. Que ces paroles soient le constat du carcan de l'esprit aurovillien ou son propre avis, elles sont absolument catastrophiques. Alors on doit quand même noter, on a trouvé en 2014 la trace d'une action de sensibilisation par une instance d'Auroville à propos de la pédocriminalité concernant 226 enfants de 6 écoles. De même, une autre action de sensibilisation a été menée en partenariat avec une ONG qui s'appelle Amrita, qui a concerné 9 écoles donc en 2016. Donc c'est mieux que rien, hein. Bon, mais la sensibilisation, c'est pas non plus ce qui empêche un enfant de se faire violer, mais c'est déjà quelque chose, on va dire. En 2019, il y a aussi eu un accord de partenariat qui a été signé entre le gouvernement local et Auroville afin que l'éducation et d'autres choses soient un peu supervisées en échange de l'obtention de subventions. Donc une sorte de remise en question partielle du souverainisme total d'Auroville vis-à-vis du pays dans lequel il s'inscrit, en fait. Et voilà, en échange de subventions. Donc en fait, beaucoup d'Auroviliens qui remettent en question le modèle actuel de gouvernance avaient de l'espoir suite à cela, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, a priori, ils ont été très vite déçus, d'après ce que dit Vikram Ram, et ça n'a pas changé grand-chose. On voit aussi que depuis 2022, il y a un nouveau site internet qui s'appelle Aware Auroville avec un joli logo qui présente une image fraîche et renouvelée de l'organisation qui gère Auroville. Quand on lit le programme de sensibilisation à l'éducation d'Auroville, qui s'appelle Nourrir l'esprit des enfants des voisins. En fait, il n'y a rien sur la sensibilisation à la pédocriminalité. Alors que la prostitution de mineurs, elle est partout. Mais dans le volet éducation, il n'y a pas vraiment ça. On note qu'il y a par contre un programme de mentorat entre des Auroviliens adultes et des enfants tamouls. Ça, c'est important. Mais en cherchant bien, quand même, on a réussi à trouver chose incroyable. Il est possible de lire un article où ça parle, parmi plein d'autres abus, le mot pédophile est utilisé. Et donc, quand même, il y a un endroit dans le site où on a un petit paragraphe de quelques lignes. Voilà, ouvrez le champagne, extraordinaire. Alors, je vous avoue qu'on a un petit peu du mal à ne pas voir ce nouveau site comme un outil de communication, en fait, destiné à contrer la mauvaise réputation de la ville et à encourager les gens à s'y installer de manière durable. Peut-être que c'est la nouvelle génération d'Auroviliens, justement, qui essaye de faire les choses un peu différemment et de libérer un peu la parole. Mais bon, parce qu'en fait, car si Auroville pique la curiosité des touristes, peu sont dupes. Et ils constatent les choses assez vite. Et peu décident de s'y installer de manière durable. Malgré les vidéos enthousiastes des youtubeurs globetrotteurs alternatifs ou de retraités illuminés par la grâce du lieu et des gens. C'est formidable, voilà, je vous ai mis les vidéos qui correspondent à ce que je viens de dire. Doit-on voir dans ces différentes actions un simple effort de communication faisant suite au reportage de la BBC de 2008 et à l'étude de 2015 ou une véritable remise en question de la culture eurovillienne? Difficile à dire. Mais il est clair que le logiciel eurovillien donne une grande marge de manœuvre pour les pédocriminels et que pendant 50 ans, rien de sérieux n'a été fait pour endiguer cela. Espérons que les Auroviliens actuels, et surtout la nouvelle génération, et ceux du futur, prendront le problème au sérieux, afin qu'Auroville ne demeure pas le nid à pédos qu'il est encore aujourd'hui. Je cite Roger Anger, l'architecte d'Auroville, en 1973. On lui demande « Auroville ne sera jamais finie, alors ?» Et il dit « Peut-être pas, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, ce n'est pas de construire une ville, c'est de construire les hommes nouveaux. » Fin de citation. Voilà, quels seront les hommes nouveaux d'Auroville de demain? Et puis une autre citation du narrateur du reportage de 73, limpide, mais que visiblement personne ne relève. Et à un moment donné, il dit: Et effectivement, il n'existe à aucun moment à Auroville de frontière entre enfants et adultes. Conclusion. Hélas, donc, la plus grande réussite d'Auroville, et c'est souvent ce qui est dit, est d'avoir planté des arbres, transformant 2000 hectares de terres dégradées en forêt. Ils ont aussi réussi à travailler sur l'écologie des lieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la permaculture, les énergies renouvelables, et à faire rêver les enfants de bourgeois alternatifs du monde entier. Concrètement, une grande enquête de victimologie pour questionner l'ensemble des enfants auroviliens et les enfants des villages des alentours permettrait de quantifier les abus. Il faudrait également y inclure les adultes ayant grandi sur place. Et là, on se rendrait compte. Et là, on pourrait identifier des abuseurs récidivistes. Et là, on pourrait identifier des endroits où ça se passe et des fonctionnements. Suite à ça, une action conjointe avec les services de police indiens afin de repérer et de démanteler les réseaux de prostitution de mineurs qui fonctionnent main dans la main avec les hostels et les guest houses serait logique dans l'esprit de la mère, puisque c'est leur référence. Même si cela doit poser des problèmes ou affecter les revenus de la communauté. Pendant un temps. Mais il faut bien assainir les écuries d'Augias. Pour finir, il est clair qu'au nom de l'élévation spirituelle de l'humanité, hein, les familles fondatrices d'Auroville ont étouffé les multiples scandales et laissé prospérer un climat délétère d'impunité depuis les débuts jusqu'à nos jours. Ils ont fait cela à minima pour ne pas briser leurs rêves, au pire, pour préserver un business rentable et ainsi garder la main sur un espace de non-droit dans lequel ils peuvent impunément violer des enfants et abuser de la naïveté des jeunes enthousiastes qui arrivent à Auroville comme dans un paradis terrestre. Pour terminer, je redonnerai la parole à Stéphane, cet Aurovillien français lucide qui y est depuis 1996 et qui nous dit de manière évidente, la réalité, c'est qu'à Auroville, c'est comme partout ailleurs. Mais le problème, c'est ça, justement. C'est que c'est comme partout.